Donc le sujet de la conférence aujourd'hui n'est pas celui de la dyslexie. J'espère que personne n'a cru qu'il allait s'agir de ça, que je ne suis pas une spécialiste de la dyslexie. Tout simplement, je pense que les aides qu'on peut apporter à des enfants en difficulté d'apprentissage de lecture peuvent être également utiles aux enfants dyslexiques. C'est pour ça que je les ai mis dans le même titre, en définitive. Donc, je vais faire très, très légèrement une très facile définition de la dyslexie quand même, parce que la dyslexie, en fait, selon l'OMS, c'est un trouble de l'apprentissage de la lecture qui s'analyse de cette façon. C'est un retard de au moins 18 mois dans l'apprentissage de la lecture sans qu'il y ait de cause repérée ou repérable. Donc, pas de cause psychologique, relationnelle, éducative, pas de cause liée à un déficit sensoriel. Donc, en l'absence de toute cause répertoriée, on parle de dyslexie. Alors, il y a des hypothèses concernant la dyslexie qui sont qu'il y aurait une anomalie au niveau cérébral, au niveau des cellules cérébrales, mais c'est vrai que moi, je n'entre pas dans cette problématique-là. Moi, je pense que de toute façon, l'enfant dyslexique peut bénéficier de méthodes qui sont pédagogiques, que ce soit orthophoniques ou faites par des enseignants, j'appelle ça des méthodes pédagogiques. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'opération, voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, apprendre à lire autrement, je vais peut-être, avant de parler d'apprendre à lire autrement, montrer simplement que le déficit dans l'apprentissage de la lecture entraîne des troubles qui ne sont pas forcément à l'origine de la difficulté d'apprentissage de la lecture, mais qui peuvent en être l'effet. Donc, on a des troubles de la personnalité qui pourraient éventuellement créer des troubles au niveau des apprentissages scolaires, mais ce qu'on voit aussi, c'est que des troubles d'apprentissage scolaire peuvent créer des troubles de la personnalité, le sentiment d'infériorité, des conflits, enfin tout ce qui tombe en fait dans le domaine de la pathologie. Et ce n'est pas forcément une pathologie qui entraîne une difficulté d'apprentissage, mais ça peut être l'inverse. Donc je voulais vous montrer un petit peu cette courbe-là très rapidement. Alors sinon, en ce qui concerne l'apprentissage de lecture à proprement parler, le non-apprentissage a des effets. Donc là, c'était sur la personnalité, mais je voulais aussi parler des effets au niveau des connaissances et des apprentissages. C'est vrai qu'un enfant qui ne lit pas ou qui ne lit pas bien va être victime de ce qu'on appelle l'effet Mathieu, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne lit pas va perdre énormément au niveau intellectuel. Il y a des études qui montrent qu'intellectuellement, enfin sur le plan des connaissances, il y a des pertes par rapport à d'autres enfants qui savent lire, parce qu'il y a des tas de connaissances qui passent par la lecture. Donc je voulais évoquer cette difficulté-là pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage de la lecture. Alors maintenant, je travaille sous les concepts de psychologie cognitive, donc je voulais vous en présenter quelques-uns. D'abord, lire, c'est une compétence différente de celle de la compréhension à l'oral. C'est ce que montre cette formule de Goff et Tonmer de 1986. C'est vrai qu'en 1985-86, il y a eu beaucoup de choses importantes qui ont été faites, et je vous en présente une là. Donc cette formule indique que la compréhension en lecture, elle dépend premièrement, si on peut dire, de la compréhension à l'oral. Il faut déjà vérifier qu'un enfant comprend oralement les choses avant de dire il ne sait pas lire ou il ne comprend pas ce qu'il lit. Une fois qu'on a vérifié qu'il comprend oralement, il faut vérifier la capacité à décoder un message écrit. Donc là, décoder un message écrit, il n'est pas mentionné de quelle façon on propose à l'enfant de le décoder. Moi, je vais voir ça tout à l'heure. Donc ça, c'est un argument qui va dans le sens du tri, en fin de compte, des informations, c'est-à-dire il ne faut pas faire un amalgame, il faut bien essayer de déterminer si l'enfant a d'autres difficultés, déjà au niveau de langage oral, que ce soit en expression ou en compréhension, de façon à ne pas tout attribuer à une mauvaise lecture. Il faut arriver à faire la part des choses. Alors, une autre théorie qui est tout à fait importante et que je vais peut-être développer un peu, c'est celle de Uta Frith, dans les mêmes années, 1985, qui trouve trois stades de lecture. Donc, le mot « stade » peut gêner certains. Moi, je pense que c'est un mot qui signifie « il y a trois entrées, en fait », dans l'apprentissage de la lecture ou dans la lecture. Donc la première entrée, c'est le stade logographique, c'est-à-dire que l'enfant apprend, je dis l'enfant parce que je ne parle que de l'enfant, l'enfant apprend les mots globalement. Donc il y a le mot maman qui est très fréquent, il y a le prénom de l'enfant, le prénom d'autres enfants de la classe. Et donc ces mots sont mémorisés à la lecture, hein, c'est-à-dire sous sa forme écrite, de façon non différenciée. Il n'y a pas de... L'enfant ne connaît pas les lettres qui sont à l'intérieur, ne peut pas le séparer en syllabes. Il va le reconnaître comme un logo, comme un dessin, comme le logo de Renault, de Citroën. C'est-à-dire que c'est une forme globale qui lui permet de donner le correspondant sonore ou la signification. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le stade logographique, qui est en cours déjà en maternelle, pratiquement essentiellement. Ensuite, on passe à un stade beaucoup plus organisé et systématique, qui est le stade alphabétique, puisque c'est là que l'enfant, enfin qu'on lui enseigne le code, strictement, c'est-à-dire la connaissance des lettres et des sons. Alors je dirais graphème, phonème ou lettres, sons, puisque ces formules-là sont utilisées. Et il y a cet apprentissage systématique et en même temps, il y a l'apprentissage de la combinatoire, donc ce qu'on appelle maintenant l'assemblage, où l'enfant est amené à déchiffrer de gauche à droite en omettant et en ajoutant et en ne modifiant aucun graphème, phonème. Donc ce stade, c'est le stade qui correspond selon moi essentiellement au cours préparatoire. J'ai fait une étude là statistique qui montre que déjà fin de premier trimestre de CE1, déjà les enfants ont quasiment tous les acquis d'un adulte. Donc je suis en cours de recherche par rapport au cours préparatoire, mais on peut supposer qu'à la fin du cours préparatoire, déjà la majorité des notions sont en place. Donc je ne vais pas aller plus loin par rapport au stade alphabétique. Je voudrais parler un peu plus en détail peut-être du stade orthographique parce qu'il y a des confusions possibles. Le stade orthographique, c'est celui où après le stade de l'alphabétique où l'enfant a appris le code d'une façon systématique et je dirais simple, on introduit l'existence de formes orthographiques qui ne se traduisent pas uniquement par le code, justement, alphabétique. Donc, il y a toutes les marques du genre et du nombre. Donc, on a là les marques du genre et du nombre qui sont des lettres, qui font en somme des lettres muettes et que l'enfant ne doit pas lire, enfin, déchiffrer, je devrais dire. L'enfant ne doit pas déchiffrer. Donc, il y a différents types de lecture orthographique, enfin dans le sens, il y a différentes problématiques d'orthographe qui font qu'il y a des lettres muettes dans les mots. Au niveau lecture, ce sont des lettres qui gênent en définitive, tandis que plus tard, au niveau orthographique, ce sera évidemment des lettres très importantes pour comprendre le texte. Alors j'ai mis quelques exemples de cette lecture orthographique pour montrer que c'est un stade ultérieur de la lecture alphabétique, mais que tout repose quand même au départ sur le stade alphabétique. Alors après, évidemment, il y a également l'étymologie. Enfin, en fait, tout ce qu'on travaille à l'école, parce que c'est essentiellement à l'école que ça se passe, tout ce qu'on travaille à l'école, en grammaire, conjugaison, vocabulaire, expression écrite, tout ça, vient après enrichir la lecture orthographique, mais qui n'est pas à la base, qui n'existe pas à la base. C'est une lente construction. Alors, donc, pour ce qui est des théories, disons, de l'apprentissage de lecture, moi, je m'appuie évidemment sur celle de l'apprentissage alphabétique, sachant que la lecture logographique est utile, ne serait-ce que pour déjà donner du sens aux phrases que l'on va élaborer, mais je pense tout à fait incontournable d'étudier très systématiquement les aspects alphabétiques de la lecture. Donc ça m'a amené, d'abord en tant qu'enseignante, puis ensuite en tant que psychologue scolaire, de proposer des formes qui sont un petit peu nouvelles pour, dans un premier temps, mémoriser la correspondance entre la graphie et la phonie, puisque logiquement, ça commence par là. Donc j'ai cherché des moyens qui soient plus directs que ceux qu'on utilise actuellement, généralement, parce qu'actuellement, on utilise un mot et on le décortique sur le plan graphique et phonique afin d'arriver à cette correspondance de la graphophonémique qu'on veut mettre en avant. Donc là, c'est une prise de plus directe, je pense, puisque à partir d'une petite histoire et d'un dessin, on donne la correspondance entre la graphie qui se trouve être là, la grande bouche du garçon et le petit abaisse-langue du médecin qui fait dire à ce garçon, en ouvrant très grand sa bouche, « Ah !» Donc, on s'appuie sur des scènes de la vie quotidienne de façon à ce que les enfants, y compris les enfants en difficulté socio-culturelle, puisque ça touche également ce type d'enfants, puissent s'engager et comprendre et s'investir dans ce type de représentation. Donc, pour tous les graphèmes que j'ai répertoriés, j'en ai répertorié 81, une autre personne orthophoniste en a répertorié plus de 100, donc en fait, c'est pas tellement fixe, ça dépend comment on fait le découpage. Donc, moi, j'en ai répertorié 81, et pour chacun, ou quasiment, il y a un dessin qui représente le son graphème en question. Alors, je voulais vous en montrer d'ailleurs, justement, d'autres. Alors, pour le haut, donc c'est très français comme culture. Je pense qu'avec des enfants étrangers, il y a bien des choses qui changeraient, certainement. Là, il s'agit du jeu de cache-cache, et le petit garçon qui a fini de compter derrière son arbre sort et prévient les autres en faisant « Oh !». Donc, on a la forme de la bouche et on a la forme des mains qui insistent justement sur ce rond que forme la bouche pour faire le « Oh !». Donc, c'est à la fois visuel, auditif et kinesthésique. Ce n'est pas la méthode gestuelle, mais parfois, il y a des choses qui peuvent s'en rapprocher. Pour le V, alors sachant qu'on utilise le phonème et non pas le nom de la lettre, évidemment. Donc, pour le V, c'est un oiseau qui vole et ses ailes dans le vent font V. On a beaucoup d'onomatopées, surtout au départ, parce que au départ, il faut que la lettre soit le plus pure, le son apparaisse le plus pur possible, et donc les onomatopées, les interjections sont très intéressantes pour ça. Donc pour le M, le M, c'est une vache qui fait son cri, qui fait M, et on raconte l'histoire de cette vache qui était dans un champ, qui s'ennuyait, qui un beau jour a pris le train. Elle se retrouve dans une gare et là, elle est inquiète, elle n'ose pas entrer. C'est pour ça qu'on lui voit que trois pattes d'ailleurs et elle fait « me ». Je vous assure, ça marche bien avec les enfants. Bon, ça c'est un peu plus complexe puisqu'on arrive vers les sons justement plus complexes. Et donc là, on a voulu mettre en valeur la symétrie du « e » de « l'e ». Et on a pu l'associer aux ailes du papillon. Donc on est très très proche entre la graphie et la phonie. C'était quelques petits exemples que je voulais vous montrer. Alors, ensuite, on travaille sur les assemblages à proprement parler. Et pour ça, on utilise des petites étiquettes. Elles sont très petites, là. Voilà, des petites étiquettes qui permettent de travailler bien strictement de la gauche vers la droite, parce que les étiquettes, on peut les poser une par une, successivement. Donc, il y a déjà la temporalité. Et il faut que l'enfant les lise au fur et à mesure, éventuellement, jusqu'à ce qu'il lise un assemblage comme celui-là, donc consonne, voyelle, consonne. Alors, j'ai pris cet exemple, j'aurais pu prendre un autre qui est affiché, j'aurais pu prendre tour, qui était plus intéressant parce qu'il y avait une étiquette avec OU, OU étant un graphème phonème, et qui est justement le fait de présenter des étiquettes avec ces graphèmes, ça, c'est différent de ce qui existe, puisque ce qui existe en général, ce sont des lettres. Donc déjà, il faut assembler les lettres pour faire « ou » ou « un » ou « oui », etc. Tandis que là, bon, il n'y a qu'une lettre par étiquette. Bon, ce n'est pas l'exemple le plus illustrateur. Ça permet de travailler donc les risques, j'ai envie de dire les risques, parce qu'il vaudrait mieux travailler en amont, d'inversion, comme le « tar » et le « tra », par exemple, pour bien systématiser justement cette progression gauche-droite. Je vous assure que ça fonctionne. Les enfants ne trouvent pas ça rébarbatif et adhèrent bien à ce projet. Alors, sinon, j'ai un autre dessin, simplement à titre illustratif. Je sais qu'il y a des tas d'orthophonistes ou autres qui utilisent ce type de représentation. C'est donc pour le D, avec ce risque de la confusion, le D et le B. Et là, bon, c'est derrière, puisque tous les personnages vont de la gauche vers droite, ils marchent. Donc, le « de » se trouve bien derrière et on fait signe, on fait mettre, dans ce sens-là plus exactement, le point dans le dos pour bien montrer que c'est derrière, pour le « d ». Donc, ça, c'était en passant. Alors, par rapport à au sens, à la question du sens, parce qu'on a beaucoup reproché à, ce méthode, à cette méthode, qui est en fait une méthode synthétique, qu'elle soit, comment dire, minorante pour le sens. Je voudrais donner un exemple là, donc à propos du travail du haut ouvert. J'ai préparé des tableaux, donc comme il en existait dans les classes autrefois, des tableaux de syllabes. Et j'aimerais bien qu'on réfléchisse un petit peu au sens de différentes cases. Par exemple, la première qui est ici, comme on lit or, or, ça existe, c'est quelque chose qui existe. Donc, on peut trouver un sens à cette toute simple association de deux lettres. C'est la même chose pour os, sachant qu'il y a des enfants qui disent os, mais ça, c'est encore un autre problème, il faut s'adapter à ce moment-là à la situation. Ce que je voulais montrer, c'est que dans ces assemblages, il y en a qui sont déjà des mots. Comme celui-là, sol, c'est déjà un mot. Il n'y a rien à y remettre ni à y enlever, c'est déjà un mot, il y a déjà un sens. Donc, on peut déjà demander à l'enfant, est-ce que tu connais, comment on s'en sert, où est-ce qu'il y en a. Alors, il vaut mieux éviter de dire, explique-moi ce que c'est, parce que ça, c'est le genre de questions qui les bloquent en général. Il vaut mieux essayer de jouer un petit peu, d'être en interaction et donc de faire un petit peu du théâtre et de contourner un petit peu la question qui est la nôtre. Donc il y a le sol, toc, à limite ça fait toc toc. Alors on amène l'enfant, lorsqu'il a déchiffré ça correctement, c'est un peu une récompense et puis ça montre que ça a du sens qu'on fait. Lui demander une petite histoire où il y aurait toc toc, à quelle occasion on utilise ça, etc. Alors, ce que je voulais indiquer, qui est un peu particulier sans doute, c'est que dans ce cas-là, on est en lecture alphabétique et qu'on ne tient pas compte de l'orthographe. C'est-à-dire qu'en fait, on se fie à l'oreille, à ce que l'enfant entend. Et s'il dit « tor », nous, on sait qu'il y a une lettre qui finit ce mot, mais l'enfant ne le sait pas. Et s'il nous explique qu'il a pris le cou du chat et qu'il l'a tordu, ou qu'il a pris une feuille de papier et qu'il l'a tordu, on n'a pas le droit, selon moi, de lui dire « c'est pas vrai ». Dans son esprit à lui, phonétiquement, c'est juste, ça correspond bien au mot « tordre ». Et il y a plein d'exemples là, il y a « sort » par exemple, qui est du même type. Nous, on sait qu'il y a un « t », lui, c'est pas. Il le saura peut-être en CE1, peut-être en CE2. Il va s'écouler beaucoup de temps avant qu'il le sache. Donc, s'il nous dit « sort », c'est le fait d'aller dehors, on n'a sûrement pas le droit de lui dire non. Je pense, entre autres, aux enfants dyslexiques qui n'aiment pas du tout qu'on les contrecarrie sur quelque chose qui leur paraît vrai. Et ils ont raison, c'est vrai. C'est nous qui aurions tort de dire non. Parce que, auditivement, effectivement, ça correspond bien au mot en question. J'ai l'exemple de l'homme, qui est un mot connu, mais l'homme, nous on sait que ça ne s'écrit pas comme ça, mais l'enfant, quand il l'entend, il a tout à fait raison de dire que c'est un monsieur qui se trouve quelque part dans la rue, par exemple. Ah oui, alors, je voulais montrer un petit peu aussi, parce que si vous voulez, ce que je veux montrer par là, entre autres, c'est que l'enfant, dans cette méthode-là, s'engage personnellement. On ne lui raconte pas l'histoire de quelqu'un. On ne se réfère pas à une culture qui n'est pas la sienne, à un niveau de connaissance qui n'est pas le sien. On reste vraiment de façon basique. Et donc, on prend des petits exemples qui correspondent au graphème que l'enfant connaît et aux assemblages que l'enfant sait faire, de façon à l'interroger constamment. En fait, on l'interroge constamment. Tu vas à l'école, oui, c'est vrai, ou avec qui pour pas lui demander ce que ça veut dire, parce que ça serait un petit peu ridicule, je lui demandais ce que ça veut dire, tu vas à l'école. Mais essayez de le mettre en situation et qu'il puisse s'exprimer sur ce qu'il vient de lire là. Tu as un vélo, bon, ben ça en général, ça intéresse bien de parler de ça. Donc toutes les propositions là ont pour objectif premier de travailler sur les assemblages, deux, et objectif second de vérifier la compréhension. Et je dirais troisième objectif, faire en sorte que l'enfant soit complètement pris dans les propositions écrites qu'on lui fait. Et ça aussi, ça marche bien. Il y a des enfants qui sont, pour lesquels le pronostic d'apprentissage est vraiment très très mauvais, qui s'engagent dans la lecture, sans doute grâce à cette interaction qu'on a entre lui et nous. Alors, en ce qui concerne l'apprentissage lui-même, j'ai fait à peu près le tour, dans le sens où, quand l'enfant s'il y a des petites phrases comme ça, au fur et à mesure que l'on découvre d'autres sons et d'autres capacités d'assemblage, on peut lire des mots de plus en plus compliqués, des phrases, des textes. Évidemment, on a mis le pied à l'étrier. Alors, je voulais juste montrer là, c'est au démarrage, je parlais de lecture logographique et alphabétique. Donc, ce qui est dans les cadres jaunes, en fait, ça correspond à la lecture logographique. On demande aux enfants un petit capital de mots pour arriver déjà à faire du sens. Pour bien indiquer qu'il ne doit pas déchiffrer, dans ce cas-là, on les a mis dans un cadre jaune. Parce que dans ma pratique, j'avais remarqué des enfants cherchaient à déchiffrer des mots qu'il fallait connaître globalement. Je pense au mot « femme », par exemple. Il est quasiment indéchiffrable. Et qui cherchaient à se remémorer globalement des mots qu'il fallait déchiffrer. Donc, c'était juste pour répondre à ce que j'avais observé dans ce cas. Donc, ce que je voulais montrer ensuite, c'est qu'on ne travaille pas à l'aveuglette, que ce soit pour des enfants en difficulté ou pour des enfants dyslexiques. Il faut savoir où on en est avant de démarrer. Enfin, pour les enfants en difficulté, ça dépend. S'ils commencent juste l'apprentissage, en principe, ils en sont à pas grand-chose. Donc, ce n'est pas la peine de faire un test. Pour les enfants qu'on peut soupçonner dyslexiques ou en grande difficulté, j'ai élaboré un test qui permet de savoir précisément où on en est dans l'apprentissage de la lecture, donc dans l'apprentissage du code, puisque moi, je m'attache essentiellement au code. Donc, ce test a été fait d'abord de façon empirique, enfin, vu mon expérience d'institutrice et psychologue scolaire, mais ensuite, il a été passé sur un certain nombre d'enfants, et cette version-là, elle est issue des statistiques qui ont été faites après ces passations. Donc, en fait, ce qui est en haut, c'est ce que les enfants connaissent le mieux. Parfois, c'est à 100%. Par exemple, ça, là, c'est pratiquement 100% des enfants qui le connaissent, à une exception, très exceptionnelle près. Et après, on s'achemine vers des formules de plus en plus compliquées. Alors, il y a trois paramètres. Là, j'ai mis son, mais maintenant, je mets graphonème. Là, j'ai mis syllabe, mais maintenant, je mets assemblage. Et de façon à pouvoir mesurer des compétences différentes, parce qu'entre ces trois colonnes, les compétences sont tout à fait différentes les unes des autres. Alors, ce test-là permet... donc, je vais vous montrer la fin... Ce test-là permet de faire le tour de la question en ce qui concerne les connaissances du code et son utilisation par des enfants qui seraient en retard dans les classes, puisqu'on trouve parfois des enfants de CE2, voire même de CM2, qui réussissent un dixième à peu près de l'épreuve et qui, bien entendu, sont en grosse difficulté en lecture. Ça me semble tout à fait évident, hein. Voilà, donc c'était juste un aperçu. Et puis, je voulais vous indiquer quelques petites choses un peu anecdotiques, mais qui peuvent rapprocher un petit peu du thème psychologique. Par exemple, on propose le mot « poli ». Donc, c'est du déchiffrage qu'on demande. Et l'enfant va lire « police ». Donc, je crois qu'il y a deux explications. Il y a celle d'abord où il n'a pas totalement bien déchiffré, mais il y a celle également où il a fait une projection de quelque chose qui est important pour lui, certainement, et qui apparaît alors que ça ne nous semble pas vraiment bien correspondre. Alors là, c'est un problème beaucoup plus technique là, que je voulais mentionner. Quand les enfants lisent la PLTRMV, par exemple, ça arrive quelquefois que quand ils lisent un assemblage, ils utilisent le nom de la lettre et non pas le phonème. C'est-à-dire que pour celui-là, cet enfant m'a dit « mupé ». De même, pour « oup », il m'a dit « oupé ». Pour « pastis », il m'a dit « pa-s-ti-s ». Pour « sourd », il m'a dit « sou-r-dé ». Donc, c'est un enfant qui est entre le déchiffrage, la connaissance de l'alphabet, qui n'a pas encore tout à fait maîtrisé tout ça. Mais je me demande pour certains enfants si c'est pas le fait qu'ils aient appris le nom des lettres qui les induit en erreur après quand il faut faire des assemblages rigoureux. Alors juste encore un exemple d'erreur qui sont des erreurs là par le sens. Là on a vu des erreurs par la technique et là on voit des erreurs par le sens. Donc, les fameux ES qui font partie de la lecture orthographique ont été évacués ou pas pris en compte, en tout cas par l'enfant, qui, en voyant le début, eh bien, faire pendule, parce que c'est un mot qu'il a dû rencontrer, sans doute. Donc, ça l'arrange que ça soit transformé en pendule. Et puis là, c'est assez amusant, parce que là, incendié, je ne sais pas trop comment il s'y est pris pour lire insorcedier. J'ai pensé un peu à ensorcelé, mais c'est un mot un peu quand même difficile. Je ne vois pas bien comment il a réussi à lire insorcedier pour incendie. Ça, c'était un enfant pas spécialement dyslexique, mais qui avait des difficultés de comportement et de personnalité et qui a été orienté en classe de perfectionnement. Alors ça, c'est plus technique, c'est un petit exemple beaucoup plus technique. Pour le mot « heure », l'enfant lit « e-ure ». Donc là, ça montre qu'il ne connaît pas le son « e », le graphème « eu ». Alors, pour terminer, je voulais montrer quelques exemples des résultats de ce test-là, que j'appelle l'ABCD de la lecture. Donc, pour un enfant de CE2, vous voyez, ça, il était en CE2, cet enfant-là, et voilà le niveau qu'il a atteint dans cette classe, c'est-à-dire qu'il connaît 5 sons, une syllabe, un mot en janvier, et en mai, il connaît 5 sons, je crois aussi, non, 8 sons, une syllabe et un mot. Donc en janvier, février, mars, avril, disons 4 mois à peu près, on peut dire qu'il a stagné, il n'y a pas d'évolution notable au niveau de l'apprentissage de la lecture. Donc là, c'est un autre exemple d'un enfant de CE1. Alors, en novembre, on a ces résultats-là, donc 21 sons, 18 syllabes, 17 mots. Et en mai, on voit quand même une grande progression dans tous les domaines, en particulier dans tous les domaines, mais c'est vrai qu'en lecture de mots, c'est important parce qu'il sait lire presque la moitié, enfin il doit s'y lire, mais un peu plus la moitié des mots. Donc il doit être déjà beaucoup plus à l'aise en classe par rapport aux activités qui lui sont demandées. Là, c'est un autre enfant, enfin c'est un enfant de co-préparatoire. Et ce que ça montre là, c'est qu'en fait, il peut y avoir un progrès. Alors là, j'ai marqué, voilà. Donc là, en fait, c'est le test avant toute intervention. Ça, c'est le test après une intervention avec les outils dont je vous ai parlé. Et puis après, il y a eu un arrêt de l'aide. Et c'est le résultat après cet arrêt de l'aide. C'est-à-dire qu'on voit que malgré la scolarisation, le niveau retombe. C'est-à-dire que ce qui est acquis n'est pas forcément définitivement acquis. Et puis, je vais terminer avec cet exemple-là. Donc, c'est le même enfant qui a été testé plusieurs fois au cours de sa scolarité. La première fois, c'était en mars 1999. Il était au cours préparatoire. Voilà le profil qu'il avait après 6 mois de scolarité à peu près. On a travaillé avec l'orthophoniste et avec la maîtresse un petit peu. Et on a réussi à avoir des résultats qui se sont améliorés là en juin 99 et qui se sont poursuivis un petit peu en décembre 99. Ensuite, on voit en février 2000 que les progrès se sont surtout accrus au niveau de la connaissance des sons, assez peu quand même, relativement, disons, au niveau de la connaissance, la lecture de syllabes et de mots. On voit que cet enfant continue à progresser encore plus ou moins régulièrement, mais enfin on peut dire que c'est quand même un progrès. Et là, il a été scolarisé en classe de perfectionnement, là, et au bout d'une petite année de classe, on voit des résultats qui ont rechuté, en ce qui concerne la lecture de mots, en tout cas. Voilà, donc la conclusion, c'est que quelle que soit la difficulté de l'enfant, je pense qu'on doit pouvoir l'aider. Moi, j'ai toujours été en tant qu'institutrice puis psychologue scolaire convaincue qu'on pouvait encore et toujours faire quelque chose. C'est ce qui m'a amenée à construire ce matériel et maintenant je l'utilise pas pour des enfants dyslexiques justement, ou alors pour des classes, voire ZEP, simplement, qui cherchent quelque chose qui n'existe pas et qui pourrait les aider davantage. Voilà, je vous remercie.
Avez-vous des questions à poser?
Entre votre méthode de lecture et la méthode phonique, quels sont les points de différence et les avantages?
Quand vous parlez de la méthode phonique, vous parlez de celle de Borel-Mezzoni?
Je n'ai pas le nom.
Ah bon, d'accord. Parce qu'une méthode phonique, je me rappelle, dans le temps, j'avais fait connaissance de la méthode du sablier. C'était canadien, il y a déjà bien 20 ans. Et c'est une méthode qui partait justement du phonique, du phonème, mais qui donnait toutes les graphies correspondant à ce phonème. C'est-à-dire que pour le phonème O, il y avait évidemment la lettre O, il pouvait y avoir le O circonflexe, il y avait EAU, il y avait AU, mais il y avait OT, OS, AUX, OLT, etc. Donc je ne sais pas si cette méthode-là dont vous parlez, je ne pense pas. Parce que les méthodes phoniques actuelles, enfin, telles que je comprends la question, ce sont des méthodes qui mettent plusieurs graphies sur une même phonie, ce qui amène parfois à utiliser le C avec le S, c'est-à-dire le C, C, I, ça fait ce et si, donc c'est le phonème S qui le met avec le S. Ce que je constate beaucoup, c'est que les enfants ne connaissent plus, certains enfants ne connaissent pas le C en tant que. Le fait de regrouper sous la même étiquette d'emblée deux lettres qui sont en principe totalement différentes a induit que certains enfants restent à la prononciation ce et non plus le CA, CO, CU, etc. qui se prononce que. Alors par rapport à la... comme moi, la méthode a été prévue pour des enfants en difficulté, j'ai beaucoup serré les problèmes et je ne présente qu'un graphème par phonème, surtout au début.
Monsieur. Merci. Bonjour. Est-ce que ça va concerner, je n'ai pas bien compris si ça va concerner une classe entière ou bien une rééducation, je dirais, psychopédagogique ou psychomotrice d'enfants en difficulté. Est-ce que ça peut se généraliser au niveau d'une classe ou est-ce que c'est véritablement un travail sur un enfant en face de soi?
Alors, il est vrai, tant que je l'ai expérimenté, moi, en tant que psychologue scolaire, c'était un travail avec un seul enfant. Mais il y a des personnes qui utilisent la méthode dans des classes entières. Cette année, par exemple, il y a, dans une ZEP, il y a un maître ordinaire qui travaille avec une maîtresse spécialisée. Et ils travaillent tellement conjointement que la maîtresse spécialisée prévoit des exercices pour utiliser dans la classe. En même temps, dès le début de l'année, elle prend des petits groupes d'enfants dont ils sentent déjà qu'il y a des difficultés d'écriture ou de mémorisation des prénoms. Et dès le début de l'année, ils travaillent de concert et ils ont l'intention de travailler toute l'année avec la méthode.
Ah d'accord. Et en même temps... parce que c'est un grand débat au niveau de l'enseignement depuis les années 80, la méthode globale, telle qu'on l'appelle, quelle est votre position par rapport à ça pour bien situer votre propos par rapport donc au problème de lecture qu'il y a actuellement, donc qui est la méthode globale que fait bon.
En fait, la méthode globale n'existe pas. Je ne sais pas si elle a vraiment existé, j'ai un peu de mal à le croire. Ce qui existe actuellement, c'est des méthodes à départ global, c'est-à-dire qu'au départ de l'apprentissage, au début du cours préparatoire, il y a plus ou moins, selon les méthodes, de mots, de phrases, de pages, de paragraphes. Donc, c'est un point de départ global, mais la méthode globale, à proprement parler, n'est pas du tout utilisée, est trop difficile de façon à utiliser. Donc, le départ global, je pense qu'il a des inconvénients pour des enfants en difficulté parce qu'ils ont du mal à mémoriser beaucoup, beaucoup de mots. Justement, j'ai fait une étude sur les différentes méthodes d'apprentissage et au bout de 4 semaines, parfois, il faut savoir plus de 100 mots. Donc, il y a des enfants, parfois, les enfants dyslexiques qui ont une bonne mémoire, ils arrivent à mémoriser et du coup, ils donnent le change. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va bien se passer parce que, au départ, tout va bien, ils arrivent à lire les pages, les phrases. Et puis, vers souvent le mois de février, quand la combinatoire devient absolument indispensable, c'est là qu'ils commencent à perdre, ils peuvent perdre pied. Soit ils peuvent continuer à lire de mémoire, soit ils vont perdre pied si vraiment, dans la classe, il faut travailler avec la combinatoire. Donc moi, ma position par rapport au global, c'est qu'il en faut un petit peu. Enfin, moi, j'en ai mis un petit peu, de façon à ce qu'on mette du sens rapidement, c'est-à-dire qu'on travaille avec des étiquettes, avec le mot maman, avec le prénom de l'enfant, le prénom de sa sœur ou de son frère, des autres élèves de la classe ou de la maîtresse. Et ça permet assez rapidement, en utilisant des pictogrammes, donc des petits cartons aussi sur lesquels figurent des dessins explicites, ça permet de faire des phrases du genre « maman a un vélo » ou « maman a une voiture ». Alors on discute le fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et donc le global, c'est juste une béquille, je dirais, pour arriver à donner du sens et intéresser l'enfant rapidement.
Plus d'intervention, Madame Semeria. Merci.
Merci beaucoup.